encore ce qui se passe au Congo, mais je ne suis pas surpris parce que c'est ce que j'ai toujours dit depuis autant d'années. Je ne vais pas revenir sur mon histoire avec le président Boukadia parce qu'il est en ligne. Monsieur le président, bonsoir à vous. Monsieur le Président, comme nous sommes ce jour de fête du Ramadan, j'ai beaucoup d'amis qui fêtent leur fête, je tenais déjà à leur souhaiter bonne fête. Monsieur le Président, pour vos amis qui fêtent le Ramadan ce soir, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Monsieur le Président, avant qu'on parle du Congo-Brazzaville, j'ai bien envie que nous parlions de l'actualité africaine. Monsieur le Président, nous avons eu l'élection de Kinshasa. Je sais que vous avez beaucoup d'amis à Kinshasa. Monsieur le Président, j'aimerais avoir votre avis de l'élection que nous avons vécue, et je me rends compte que juste après l'élection, et pourtant nous avons écouté le président Félix Tshisekedi a dit, si nous écoute, nous avons une seule balle qui arrive au niveau de Goma, il va réagir face au Rwanda. Monsieur le Président, quand je vois tout, quand nous écoutions tous ces politiques, et finalement nous retrouvons toujours dans les mêmes... J'ai pas envie de dire le mot que je pense, vous comprenez bien. Monsieur le Président, qu'est-ce déjà l'élection? Parce que nous allons aller doucement ce soir, j'ai le temps, Monsieur le Président. Depuis 2016, j'échange avec vous. J'ai envie d'échanger avec vous aujourd'hui, tranquillement, que vous me dites, que je sache un tout petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la politique internationale, avant que nous revenions sur notre politique nationale. L'élection à Kinshasa, Monsieur le Président, votre avis?
Je pense que la tranquillité qu'il y a eu dans ces scrutins
Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous avez un problème de connexion, sinon nous changeons de ligne. Sinon vous vous déplacez un tout petit peu parce que de temps en temps, quand vous parlez, la connexion nous échappe. On vous écoute, Monsieur le Président.
Oui.
Nous allons y revenir, Monsieur le Président. Je voulais juste avoir, parce que nous allons revenir sur le Congo, Monsieur le Président. Je voulais avoir votre avis déjà sur Kinshasa. Pour terminer sur Kinshasa, parce que je voudrais aussi avoir votre avis sur le Sénégal. Monsieur le Président Boukadia, je pense que nous avons un problème de son. Attendez, je vais repasser, il y a un téléphone, ça sonnera chez vous, restez dans votre ligne. Je pense que de ce côté, nous allons mieux nous faire entendre parce que, oui, Monsieur le Président, on vous écoute mieux là, Monsieur le Président.
Allô?
Oui, là c'est mieux, on vous écoute mieux là, Monsieur le Président.
Oui, donc, président Félix Tshisekedi qui doit faire asseoir son opposition pour qu'il résolve, qu'il trouve ensemble les solutions qui s'opposent à la République démocratique du Congo par rapport au conflit majeur qu'il a avec son pays frère, le Rwanda.
Monsieur le Président, en parlant du Rwanda, j'ai vu que vous avez écouté Monsieur Cédric Balou, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe effectivement? J'étais coupé, Monsieur le Président. Vous pouvez informer cette population. C'est quoi cette histoire? Parce que nous avons écouté le Premier ministre Makosso qui a dit que non, ils ont signé un contrat de 20 ans. 20 ans, il a même cité des entreprises qui avaient signé des contrats depuis 2015. Et 2015, bon, après l'État a récupéré. Monsieur Boukadia, vous qui êtes politique, éclaircissez-nous un tout petit peu, Monsieur Boukadia, parce qu'on ne comprend plus rien. Cette vente du Rwanda, je vois que tout le monde, je vois que les Congolais sont fâchés, les gens sont excités, le Rwanda, les gens ont peur. Nous avons aujourd'hui des audios qui partent de Kinshasa, nos frères de Kinshasa, avec lesquels nous avons partagé pratiquement toute notre vie ensemble, 60 ans de jolibilité, comme on dit. Mais aujourd'hui, tel que ces partis-là, nous risquerons d'avoir des problèmes avec nos frères de Kinshasa. Parce que quand la carte a été définie par les journalistes de Kinshasa, et surtout quand on nous dit que le Rwanda est en train d'acheter dans tous les quatre coins du pays, du monde, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Les politiques, vous qui êtes politique, Monsieur Boukadia, vous connaissez tous ces hommes politiques, qu'est-ce qui se passe? Le Congo a fait quoi? Est-ce que nous méritons ça? Monsieur Boukadia, déjà l'histoire du Rwanda, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, Monsieur Robert Ibaka, aujourd'hui, c'est d'abord une tristesse. Une tristesse de constater qu'effectivement, l'État est mort au Congo-Brazzaville. L'État est définitivement mort. Et quand je dis qu'il n'y a aucun gouvernement au Congo, tout le monde lève les bras au ciel. Mais un gouvernement existe parce qu'il est assis, il est rendu légal, il est rendu légitime par des textes constitutionnels. Et quand le même gouvernement, si tant est qu'il y ait un gouvernement au Congo, viole sa propre constitution qui le rend légitime, il y a lieu de se poser la question. J'entends par ici, par là, que le Congo a signé un accord cadre entre le Congo et le Rwanda. Mais il me semble, moi je n'étais pas d'accord avec cette constitution-là, où on vote une constitution et on l'applique, ou on ne vote pas et puis on fait n'importe quoi. Mais quand on soumet une constitution sur mesure, et dans cette constitution-là, il y a un article, l'article 219, qui dit que aucune cession, aucun échange et nulle acquisition d'un territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par la voie du référendum. Mais peut-être que parce que j'étais en prison qu'il y a eu un référendum sur la validité de l'accord cadre entre le Rwanda et le Congo. Et je rappelle, pour à l'intention de ceux qui ont signé ces accords-là, que ce soit du côté du Congo, que ce soit du côté du Rwanda, un accord cadre ne concerne pas la cession d'un pays, la cession des terres. Un accord cadre est un instrument de planification d'une commande publique. Alors que si on n'a pas la capacité d'intégrer les notions financières au niveau international, on évite d'amener le peuple dans du désordre. Parce que cet accord cadre-là n'a pour but que de mettre du désordre au Congo-Brazzaville. Ça ne devrait pas avoir lieu parce que ce gouvernement ou ce ministère n'avait pas le droit légitime et légal de signer un accord cadre entre le Congo et le Rwanda. Sauf si ce gouvernement invite le peuple congolais a un référendum pour dire que nous allons céder pendant un certain nombre d'années une portion du territoire au Rwanda. Ça n'a pas été le cas. Et si le Rwanda va dans ce sens-là, il est à craindre que si jamais il y a des modifications de manière très difficile au Congo, que les relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda puissent être posées. Voilà. Je pense que cet accord cadre-là n'a pas lieu d'être appliqué parce que légitimement, du point de vue de la Constitution que M. Sassou a imposé aux Congolais dans son article 219, cet accord cadre ne peut pas avoir lieu. D'une part et d'autre part, un accord cadre est un instrument de planification d'une commande publique par rapport à un acheteur sur des marchés bien précis.
Monsieur le Président.
Ne peut pas être l'objet d'un marché. Ça n'existe nulle part dans le monde. Alors je voudrais conseiller à ceux qui sont disant des ministres de repartir à l'école pour apprendre les notions de la planification et de l'utilisation des instruments financiers. Quand on ne connaît pas, on demande. Au lieu de mettre les gens sont par la misère, alors on les occupe en disant fâchez-vous, on vous vend les terres. Alors ça n'existe pas. Parce que ce qu'ils posent là, ce qu'ils ont posé là, ça peut être l'objet des ruptures des relations diplomatiques avec le Rwanda. Et si jamais le gouvernement du Congo se changeait de manière brutale, l'existence des rapports diplomatiques avec la République du Rwanda serait posée.
Mais monsieur le Président, nous risquerons d'être en froid avec nos frères de Kinshasa parce qu'ils sont en train de se lever là, de nous tirer la sonnette d'alarme. Congo, Brazzaville, Boko, Salané, Nikoma, Boko. Pourquoi vous avez fait rentrer? Je vous pose cette question, monsieur Boukadia, parce que je sais que vous connaissez, vous avez des réponses. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire, dire à nos hommes politiques? Parce que j'ai écouté le premier ministre, vous avez dû l'écouter, Coline Makosso, qui a expliqué que c'était un contrat.
Je n'écoute pas cet individu-là.
Mais bon, enfin, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit oui.
Monsieur, quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a détourné à son profit des fonds de la Banque mondiale qui étaient destinés à réhabiliter des écoles et des lycées. Quand quelqu'un détourne des fonds de l'Éducation nationale, il ne peut pas être considéré comme un ministre ou comme un premier ministre.
Mais oui, mais monsieur le Président, là, il nous a dit, il a démontré, il a fait son spectacle. Après, non, je vais appeler ça un spectacle. Et ça, je l'assume pour nous faire comprendre que c'était un contrat que les Rwandais ont pris pendant 20 ans. Ils ont signé pendant 20 ans, 20 ans. Et après 20 ans, bon, ça va revenir à l'État congolais. C'est quoi ces accords-là que les politiques signent 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans même avec des pays? Je sais même plus si c'était 20 ans. Monsieur, il a dit, il a accordé, il a dit après 20 ans, ça va revenir, les terres vont revenir au Congo. Et puis bon, le Rwanda va nous mettre des belles immeubles, des belles routes. Et puis bon, ça revient au Congo. Monsieur Boukadia, qu'est-ce qui se... Oui, monsieur le Président.
Je, ces accords-là sont sérieux, c'est tout, j'espère qu'ils ont été à l'école, il faut qu'ils lisent l'article 219 de leur constitution qui leur confère l'existence de ce qu'ils sont. L'article 219 de leur propre constitution, que moi je ne considère pas, mais que eux ils considèrent. Cet article 219 ne leur donne pas ce pouvoir-là. Donc je ne peux pas dire plus que ça. Je ne peux pas dire plus que ça. Mais ce que moi je souhaite, parce qu'il faut arrêter le désordre, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le Congo se trouve dans une situation très difficile. Et je voudrais, j'en profite, pour féliciter le courage du monsieur qui a parlé avant que vous ne m'accordiez la parole.
Cédric Balou, on l'appelle.
Je le félicite. Hein. Et j'ai toujours dit que ce qui arrive aujourd'hui au Congo-Brazzaville, c'est de la responsabilité de tous les Congolais. Parce que tous les Congolais ont laissé faire. C'est de la responsabilité des religieux. C'est de la responsabilité des partis politiques. C'est de la responsabilité des organisations syndicales. C'est de la responsabilité des forces armées congolaises. C'est de la responsabilité de tout le peuple congolais qui a laissé faire. Donc, je suis heureux et merveillé quand j'entends qu'il y a des jeunes qui veulent prendre en main le destin du pays. Et c'est une chose à féliciter, c'est une chose à encourager. Aussi, comme je l'ai dit, quand j'ai, à un moment donné, en 2010, quand j'ai dit au président Sassou, il faut quand ça saigne, parce que de la manière dont le Congo est en train d'être dirigé, nous risquons de connaître des dérives, nous risquons de connaître des divisions tellement profondes qu'il nous fera difficile. Alors on a commencé à mettre en place une certaine division du Congo, soi-disant basée sur le tribalisme. Et à ce moment-là, j'avais discuté avec beaucoup d'acteurs politiques. J'avais discuté avec M. Clément Mirassa. J'avais discuté avec M. Nyokono. J'avais discuté avec le général Ngonondele. J'avais appelé M. Mathias Sonton. En France, j'ai discuté avec Maître Martin Berry, avec M. Magloire Noba. J'avais dit, il faut qu'on s'asseigne. Sinon, nous risquons de connaître des divisions qui seront tellement importantes que ça sera difficile que le Congo puisse se ressaisir. Et j'avais même poussé le bouchon très loin.
Excusez-moi, Monsieur le Président, nous sommes en train de le vivre. Hein. Je vais vous laisser continuer, mais nous sommes en train de vivre cette division. Et moi, j'ai commencé à en parler depuis 10 ans. Excusez-moi de vous couper, parce que il faut vraiment qu'ils. Et quoi, allez-y, Monsieur le Président, expliquez. Ce truc que vous avez cité, ces mêmes responsables politiques qui sont là encore en train de nous gérer, les mêmes dont vous avez parlé. Allez-y, Monsieur le Président, je voulais juste qu'ils comprennent que... Allez-y.
Et je suis heureux. Ça peut même pousser l'absurde. J'avais poussé l'absurde, puisque le commandement civil et militaire était à 100% de la région de la Cuvette. J'avais dit d'abord, vous avez créé votre état du Nord, eh bien, créons l'état du Sud. Je pensais qu'il y aurait des gens qui allaient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ils ont pris des fatwas pour me lyncher. Il veut diviser le Congo. Il ne savait pas que le Congo était déjà divisé. Avant, on disait, M. Robert Ibaka, il faut que les gens comprennent. Il y avait la division nord-sud. Aujourd'hui, il y a la division au nord. Il y a la division au sud. Hein? Et finalement, question que nous devons nous poser aujourd'hui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire?
Que devons-nous faire, monsieur le président? Que devons-nous faire? Je vais revenir dessus. Mais monsieur le président, c'est pas parce que cette histoire du coq qui vous rattrape et qui fait qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai qu'on en a parlé, monsieur le président. Je reviens dessus pour que, parce que je viens de voir un commentaire. C'est quoi cette histoire du coq, monsieur Boukadia, une fois encore?
Je voudrais dire ceci, que les Congolais ne se trompent pas. Le Congo n'est pas le seul pays qui a connu des drames. Le Congo n'est pas le seul pays qui a connu des tragédies. Le Congo n'est pas le seul pays où on a connu des crimes économiques et des crimes de sang. Tous les pays du monde ont connu cela. Aucun pays n'a jamais connu ça. Tous les pays ont connu ça, pardon. Tous. Mais dans tous ces pays-là, il y a les hommes politiques qui se sont levés en disant « Regardons le futur ». Y a-t-il une différence entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, le Gabon et le Congo? La différence, c'est que ces pays ont connu aussi certaines dérives. Mais ils se sont rattrapés en disant l'unité de nos peuples. Alors qu'au Congo, tout le monde fait tout pour qu'il n'y ait pas l'unité du peuple. Tout le monde se cache derrière son ethnie, derrière sa région. Et c'est ça le drame du Congo. Et donc, c'est pour ça que je dis, malgré tout ce qui s'est passé, le Congo a connu de grandes difficultés. Prenons ce qui s'est passé en 1959, parce qu'il faut toujours partir. Et je le dis pourquoi. Parce que tous les pays du monde qui ont des problèmes chez eux, les solutions se trouvent dans leur propre histoire. Et les solutions chez nous, au Congo, se trouvent dans notre propre histoire. Quand il y a eu des problèmes en février 1959, le président Zulu et le président Jacob Pango se sont assis. Et ils ont trouvé une solution pour asseoir le pays. Quand il y a eu des problèmes à l'avènement du commandant Marien Ngouabi, le commandant Marien Ngouabi s'est élevé au-dessus de tout, au-dessus de l'ethnie, au-dessus de la tribu, au niveau de la zone nord, pour aller voir le président Alphonse Massamba-Biba pour discuter du problème du pays. Mais il est clair que le moment n'était pas venu. Il y a eu des incompréhensions et on a connu ce que nous avons connu. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en 1959 est en voie d'advenir là demain. Est-ce que nous devons laisser le pays aller dans ce sens-là?
Là, je suis d'accord avec vous, monsieur le président.
Le pays aller dans le règlement de la violence, des problèmes? Non. C'est pour ça que si l'histoire doit retenir quelque chose au Congo, c'est l'avènement de l'Union nationale. Il n'y a que M. Sassou qui est capable de dire que nous voulons l'Union nationale, parce qu'il est l'héritier de ce que devait faire le président Marien Ngouabi. Et donc c'est à lui de continuer le travail que devait faire Marien Ngouabi, c'est-à-dire l'Union du Congo. le peuple congolais, de génération en génération, reconnaîtra que le président Denis Sassou Nguesso a permis l'union nationale pour éviter la dislocation du Congo. Comme je venais de le dire, au nord, il y a des divisions atroces. Au sud, il y a des divisions atroces. Alors, s'il faut faire ce peu, c'est là qu'il va montrer que c'est un homme politique. C'est en cela, c'est le seul héritage qu'il doit laisser à la génération future. Car le reste, si jamais il y a une autre solution, les noms qu'on a donnés de lui sur les avenues, les immeubles qu'il a construits seront rasés. Mais la seule chose qu'on ne pourra pas raser, c'est qu'il aura permis l'Union nationale. C'est ça l'histoire. C'est ça ce que les nouvelles générations reconnaîtront. Ce qui s'est passé, les drames qu'il y a eu, les tragédies qu'il y a eu, ça sera à la justice de le faire. Mais aujourd'hui, la décision politique du président Sassou, c'est d'amener les Congolais à l'Union nationale.
Emmener le président Sassou à l'Union nationale. Monsieur le Président, nous en parlons depuis 3 ans. Monsieur le Président, l'Union nationale, beaucoup ont pensé que ça ne pouvait pas arriver. Monsieur le Président, je le dis, j'en ai parlé avec Hugo Golondele, qui est mon grand frère, je pense que je vous ai fait le point. Et à ma grande même surprise, il m'a dit qu'il vous connaît très bien. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous avons le Cameroun qui est au bord de l'explosion. Nous avons le Gabon aujourd'hui qui a apaisé ce bord d'explosion, mais on verra ce que le président va faire. Nous avons le Tchad qui est au bord de l'explosion. Monsieur le Président, vous connaissez tous ces hommes politiques. Ils vous ont pris, ils vous ont jeté en prison, ils vous ont martyrisé, ils vous ont tabassé même, s'il faut le dire. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, malgré toute cette souffrance que mes parents vous ont fait, parce que c'est mes parents, il faut le dire, je ne vais pas le redire aujourd'hui, parce que... Mais ils ne comprennent pas, monsieur le Président. Comment vous voulez toujours, aujourd'hui, tendre la main à ces gens qui vous ont fait du mal? Et pourquoi l'Union nationale, vous insistez, et pourtant tout le monde dit qu'ils veulent qu'ils dégagent, après une nouvelle structure arrive? C'est même pour ça que je vous suis, monsieur le Président. Mais j'ai besoin que vous faites comprendre un tout petit peu, parce que c'est difficile. Hein. Moi, je parle à tous ces gens-là, oui, Boukadia, j'ai dit, Boukadia est en prison, foutez-moi la paix. Excusez-moi du terme, hein, monsieur le Président, parce qu'au moins, vous avez subi la prison. Moi, je sais ce que c'est, parce que j'ai un père qui a passé toute sa vie en prison. Monsieur Boukadia, pourquoi vous insistez à tendre la main?
Vous savez, la date d'aujourd'hui pour moi est une date très difficile. Vous savez, le 10 avril 2016, celle qui m'a donné la vie, Marianne Otaïa, quand elle a appris que j'étais arrêté, a fait un AVC et elle est partie le 10 avril 2016, et on ne m'a pas permis d'aller lui rendre les derniers hommages. Mais au-delà de ça, pourquoi je veux l'Union nationale? Je veux l'Union nationale parce que elle va nous permettre l'apaisement. Elle va permettre l'apaisement du pays. vous savez que personnellement, je ne suis pas impliqué dans les crimes financiers et les crimes de sang au Congo. J'aurais pu être indifférent à l'Union nationale. J'aurais pu vraiment être indifférent. Mais il me faut plaider la réconciliation auprès du peuple congolais pour qu'il essuie ses larmes et que tout le monde, tous ensemble, nous nous projetons vers le futur pour les générations qui nous suivent. Et je crois que c'est la vraie guerre que les diasporas du monde, c'est la vraie guerre que le peuple congolais, c'est la vraie guerre que nous tous, les partis politiques, les organisations syndicales, les travailleurs, des élèves et étudiants, et les partis politiques et les personnalités doivent mener, parce que c'est cette guerre-là, nous devons la gagner ensemble, celle de la réconciliation, afin que tout le monde, du nord au sud, du sud au centre, de l'est à l'ouest, nous essuyons les larmes. Parce que ce qui se passe à travers le monde, le Congo ne peut pas être en reste. Parce que aujourd'hui, c'est ce courant émancipateur qui est en train de gagner toute l'Afrique. Et si nous, Congolais, on ne se réunit pas, on ne s'unit pas, nous risquons d'être sur le bord des grandes mutations qui sont en train d'advenir. C'est pour ça que j'ai fait une parenthèse, parce que de par le monde, que ça soit du côté de l'Afrique du Sud, que ça soit au Ghana, que ça soit au Nigeria, que ça soit au Sénégal, que ça soit en Côte d'Ivoire, il y a des hommes politiques qui ont été persécutés, qui ont connu des prisons, mais qui ont appelé à l'apaisement. C'est pour ça que ce que j'ai subi, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux. Je ne permettrai jamais, jamais au grand jamais, que mon pays puisse, à l'issue de compromis politique historique, puisse envoyer ses enfants dans une quelconque maison d'arrêt pour divergence d'opinion. Non. La divergence d'opinion est nécessaire dans un pays. Comme la diversité de nos cultures, c'est bien d'être Vili, c'est bien d'être Congo, c'est bien d'être Ngala, Moshi, c'est bien d'être Kukuya, c'est bien d'être Tsangi, parce que ça enrichit le Congo. C'est ça ce qui fait la force du Congo. Tout comme lorsqu'on parle différemment de la manière de gérer le pays, on devient fort. Et c'est cette force-là qui me pousse pour que j'appelle le peuple congolais à l'unité. Une unité qui ne doit pas faire éclipser les différences culturelles que nous avons. Ces différences culturelles, jadis, on les exprimait dans ce qu'on appelait la semaine culturelle, où on s'extasiait à notre époque, voir comment les uns dansaient, comment les autres dansaient. Ça existait et ça doit exister à nouveau pour mettre enfin un frein à cette gangrène, à ce cancer qui est le tribalisme, qui nous pourrit la vie et qui nous détruit. C'est pour ça que, en ce soir du 10 avril 2024, capital des travailleurs et des élèves et étudiants congolais. J'appelle les forces armées congolaises. J'appelle les partis politiques et les personnalités. J'appelle les congrégations religieuses, les catholiques, les protestants, les salutistes, les mbunza, les machouanistes, les libres penseurs et les diasporas à travers le monde que nous devons prendre les responsabilités qui nous incombent pour la survie du pays. Dans le cas contraire, nous serons tous responsables de ce qui est en train de se préparer. Et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». C'est ici que chacun doit réfléchir à ce que nous voulons demain. Et je montre la voie, c'est l'Union nationale. La main tendue a été entendue au Tchad, a été entendue en Côte d'Ivoire, a été entendue en RDC, a été entendue au Centrafrique, au Gabon, au Mali, au Sénégal. Pourquoi pas le Congo? Devons-nous rester en reste? Que l'histoire que nous avons vécue, quels que soient les drames et les tragédies, le Malien Wabi ne nous tétanise pas. Le drame, et si nous voulons rendre véritablement un hommage au président Malien Wabi, c'est de nous dépasser et d'aller vers où il voulait aller, c'est-à-dire l'Union du Congo. C'est le message d'aujourd'hui que je lance. Le drame de Marien Wabi est l'acte fondateur de l'Union nationale. Et le président Denis Sassou Nguesso doit en être le garant.
Monsieur le Président Boukadia, vous savez, je vous écoute toujours avec beaucoup d'émotion. Je vais vous faire écouter Ndio Mathias juste après. Qui fait le bilan de l'état du Congo. Monsieur le Président, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cette nouvelle génération, à vos amis qui vous écoutent? J'ai même été surpris en discutant avec le ministre Hugues Colondele qui m'a dit qu'il vous connaît très bien. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas aujourd'hui trouver une solution que nous nous asseyons tous ensemble pour essayer de discuter pour l'avenir de ce beau pays de demain. Monsieur le Président, pour le mot de la fin, en parlant de ça, je vais faire un gros coucou à tous les boucadistes, parce que ils sont nombreux du côté de Pointe-Noire, bonsoir à vous, du côté de Brazzaville, bonsoir à vous, du côté de Wando, j'ai même vu à Wando, vous êtes très suivi, monsieur Boukadia, du côté d'Oyo, bonsoir, ils sont nombreux à vous écouter. Il me dit, Bob, monsieur Boukadia, c'est la solution, c'est pas pour vous flatter, hein, monsieur Boukadia, monsieur. D'abord, vous avez appris à me connaître. Vous savez que je ne suis pas un flatteur. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, bonsoir à Madame Boukadia aussi qui doit être à l'écoute. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire juste après Ndio Mathias dans Ebakasho? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent, très chers compatriotes? Merci encore une fois d'accepter mon invitation. Monsieur Boukadia, le mot de la fin.
C'est d'abord pour moi une grande joie d'utiliser ce média, un média qui me permet de parler au peuple congolais, à la jeunesse congolaise. Je voudrais dire qu'il y a ceux qui rêvent que ce qui s'est passé au Sénégal puisse advenir au Congo. C'est noble, mais je voudrais leur rappeler que nous n'avons pas le même passé. Le Sénégal n'a pas eu autant de passifs que nous au Congo. C'est pour ça que il ne faut pas juxtaposer les choses. Néanmoins, le plus important, c'est que chaque pays, en fonction de son histoire, a les solutions dans son histoire. Et nos solutions au Congo-Brazzaville sont dans notre propre histoire. Au Gabon, au Tchad, en RDC, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Togo, et j'en parle. Dans ces différents pays, il y a eu moins de ressentiment, moins de grève, moins de rancœur et moins de préjugés. C'est pour ça que il y a eu des facilités. Chez nous, il y a eu tant de problèmes. Mais ces problèmes peuvent être dépassés et nous devons les dépasser. C'est surtout vous, les jeunes, qui devez dépasser parce que vous êtes l'avenir. Alors, ne vous laissez pas embrigader par des paroles mielleuses parce que sans jeunes, aucun pays ne peut se construire. Sans jeunes, aucun pays n'a aucun futur. C'est pour ça que, au-delà que nous avons été embrigadés par des mouvements de jeunes, où vous aurez dû vous exprimer, on vous a formaté. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez des instruments pour vous dépasser du fléau dans lequel on vous a entraîné, qui est celui du tribalisme. Un jeune ne peut pas parler de tribalisme. Un jeune n'a pas à répertorier la politique que nos grands-parents ou nos parents ont mis au Congo pour pouvoir gouverner par la division. Un jeune est fait pour unir les jeunes. Alors, cette unité, l'Union nationale, c'est vous les jeunes qui devez en être les promoteurs, parce que c'est votre monde. Et votre monde aujourd'hui utilise les outils informatiques, les nouvelles technologies de communication et de formation qui vous permettent de vous connaître. Alors, je compte sur vous les jeunes de nous amener vers cette union nationale. Quand vous voudrez de cette union nationale, nous, les anciens, nous viendrons à l'Union nationale. Vous, les jeunes, quand vous voudrez que le Congo change, que le Congo change, nous, les anciens, nous changerons. C'est à vous de nous faire changer.
Eh oui.
Mais mes amis, comme le disait M. Robert Ibaka, et comme l'a dit mon parent Yves Ngolendele, qui ne connaît pas Boukadio au Congo. Moi, j'ai été avec tout le monde. J'ai connu Ekondi Akala venait chez moi.
Ah, ça c'est mon père, Ekondi Akala.
L'ancien ambassadeur du Congo à Paris, son excellence, M. Jean-Marie Ewenge, venait manger chez moi. Ange-Edouard Bougui venait chez moi. Justin Le Kundu venait chez moi, qui ne venait pas chez moi. Hein? Même celui qu'on appelait le maire nommé, son nom échappe, malheureusement il est mort.
Mais vous avez cité trois de mes pères, là, et Kondia Kala et Mwenge, ça c'est mes papas, ça. Surtout le vieil Kondi. En parlant du vieil Kondi, bonsoir à toi, très cher père. Ah, lui, il est encore en vie, comme... Et Kondia Kala, le papa de Kani. Ça, c'est mon papa, ça.
Voilà, donc,
oui, oui.
Avec tout le monde, comme je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit que mes premiers diplômes en France, c'est que le professeur Pascal Yusuba qui l'a signé quand il enseignait à l'université Val-de-Marne. Hein? J'ai rencontré Mary Martin quand il était en France. J'ai discuté avec Madame Claudine Monari. J'ai discuté avec tout le monde. Tout ce monde-là. Donc, il n'y a pas lieu d'entamer des divisions inutiles. Nous connaissons tous au Congo. Tous. Et s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui disent qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils aillent voir le général l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Aubin, il va les édifier qui je suis. Moi, je suis un homme ouvert. Je l'ai dit aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'on s'assied. S'il y a des gens qui veulent être président, construisons d'abord le Congo et chacun pourra être président. Mais vous ne pouvez pas être président dans un pays disloqué. Construisons d'abord l'unité de l'Union nationale et chacun pourra dire « Oui, c'est moi qui vais être président du Congo. » Mais tant que le Congo est ainsi divisé, vouloir avoir la prétention d'être président, c'est être utopiste. On dirige une société qui fonctionne ou que l'on veut faire fonctionner. Pas une société qui est en lambeau. Le Congo est en lambeau. Et vous voulez être président? Alors, chers jeunes, c'est à vous. C'est à vous que j'en appelle pour aller à l'Union nationale, pour nous amener à l'Union nationale et pour que nous mettons en place les institutions stables par la voie du compromis politique historique grâce à la main tendue. Je vous remercie.
Merci, monsieur le